Maurice Leblanc, Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Épisode 2, chapitre 1, deuxième partie. Sholmès tendit à la baronne la lettre que lui avait adressée Arsène Lupin. Madame d'Imbleval fut stupéfaite.
Arsène Lupin ? Comment a-t-il su ?
« Vous n'avez mis personne au courant de votre lettre ?»«
Personne, dit le baron, c'est une idée que nous avons eue l'autre soir à table. »«
Devant les domestiques ?»«
Il n'y avait que nos deux enfants, et encore... Non, non, Sophie et Henriette n'étaient plus à table, n'est-ce pas, Suzanne ?»
Madame d'Imbleval réfléchit et affirma.
« En effet, elles avaient rejoint Mademoiselle. »
« Mademoiselle ?» interrogea Sholmès.
« La gouvernante, Mademoiselle Alice Demain. »
« Cette personne ne prend donc pas ses repas avec vous ?»«
Non, on la sert à part, dans sa chambre. »
Wilson eut une idée. « La lettre écrite à mon ami Herlock Sholmès a été mise à la poste. »
« Naturellement. »«
Qui donc l'apporta ?»«
Dominique, mon valet de chambre depuis 20 ans, répondit le baron. « Toute recherche de ce côté serait du temps perdu. » »«
On ne perd jamais son temps quand on cherche, » dit Wilson sentencieusement. La première enquête était terminée. Sholmès demanda la permission de se retirer. Une heure plus tard, au dîner, il vit Sophie et Henriette, les deux enfants des d'Imbleval, deux jolies fillettes de 8 et 6 ans. On causa peu, Sholmès répondit aux amabilités du baron et de sa femme, d'un air si rébarbatif qu'ils se résolurent au silence. On servit le café, Sholmès avala le contenu de sa tasse et se leva. À ce moment, un domestique entra, qui apportait un message téléphonique à son adresse. Il ouvrit et lut. « Vous envoie mon admiration enthousiaste. Les résultats obtenus par vous en si peu de temps sont étourdissants. Je suis confondu. Arsène Lupin. » Il eut un geste d'agacement et montrant la dépêche au baron. « Commencez-vous à croire, monsieur, que vos murs ont des yeux et des oreilles ?»«
Je n'y comprends rien, » murmura monsieur d'Imbleval, abasourdi.
« Moi non plus. » Mais ce que je comprends, c'est que pas un mouvement ne se fait ici qui ne soit aperçu par lui. Pas un mot ne se prononce qu'il ne l'entende. Ce soir-là, Wilson se coucha avec la conscience légère d'un homme qui a rempli son devoir et qui n'a plus d'autre besogne que de s'endormir. Aussi s'endormit-il très vite, et de beaux rêves le visitèrent où il poursuivait Lupin à lui seul et se disposait à l'arrêter de sa propre main. Et la sensation de cette poursuite était si nette qu'il se réveilla. Quelqu'un frôlait son lit. Il saisit son revolver.
« Un geste encore, Lupin, et je tire !»«
Diable, comme vous y allez, vieux camarade !»«
Comment, c'est vous, Sholmès? Vous avez besoin de moi ?»«
J'ai besoin de vos yeux. Levez-vous !» Il le mena vers la fenêtre. « Regardez de l'autre côté de la grille,
dans le parc ?»«
Oui, vous ne voyez rien ?»«
Je ne vois rien. »«
Si, vous voyez quelque chose. »«
Ah, en effet, une ombre, deux même. »«
N'est-ce pas ? Contre la grille, tenez, elle remue. »« Ne perdons pas de temps. » À tâtons, en se tenant à la rampe, ils descendirent l'escalier et arrivèrent dans une pièce qui donnait sur le perron du jardin. À travers les vitres de la porte, ils aperçurent les deux silhouettes à la même place.
« C'est curieux, » dit Sholmès, « il me semble entendre du bruit dans la maison. »
« Dans la maison, impossible, tout le monde dort. »
« Écoutez, cependant. »
À ce moment, un léger coup de sifflet vibra du côté de la grille et ils aperçurent une vague lumière qui paraissait venir de l'hôtel.
« Les d'Imbleval ont dû allumer, » murmura Sholmès. « C'est leur chambre qui est au-dessus de nous. »
« C'est eux sans doute que nous avons entendu, » fit Wilson. « Peut-être sont-ils en train de surveiller la grille. »
Un second coup de sifflet, plus discret encore.
« Je ne comprends pas, » dit Sholmès agacé.
« Moi non plus, » confessa Wilson.
Sholmès tourna la clé de la porte, ôta le verrou et poussa doucement le battant. Un troisième coup de sifflet, un peu plus fort celui-ci, et modulé d'autre sorte. Et au-dessus de leur tête, le bruit s'accentua, se précipita.
On croirait plutôt que c'est sur la terrasse du boudoir, souffla Sholmès.
Il passa la tête dans l'autre bâillement, mais aussitôt recula en étouffant un juron. À son tour, Wilson regarda, tout près d'eux, une échelle se dressait contre le mur, appuyée au balcon de la terrasse.
Hey, « Eh, parbleu !» fit Sholmès. « Il y a quelqu'un dans le boudoir. Voilà ce qu'on entendait. Vite, enlevons l'échelle !»
Mais à cet instant, une forme glissa du haut en bas, l'échelle fut enlevée, et l'homme qui la portait courut en toute hâte vers la grille, à l'endroit où l'attendaient ses complices. D'un bond, Sholmès et Wilson s'étaient élancés. Ils rejoignirent l'homme alors qu'il posait l'échelle contre la grille. De l'autre côté, deux coups de feu jaillirent.
« Blessé ? » cria Sholmès.
« Non !» répondit Wilson. Il saisit l'homme par le corps et tenta de l'immobiliser. Mais l'homme se retourna, l'empoigna d'une main et de l'autre lui plongea son couteau en pleine poitrine. Wilson exhala un soupir, vacilla et tomba.
« Damnation !» hurla Sholmès. « Si on me l'a tué, je tue !»
Il étendit Wilson sur la pelouse et se rua sur l'échelle. Trop tard, l'homme l'avait escaladé et, reçu par ses complices, s'enfuyait parmi les massifs.
« Wilson, ce n'est pas sérieux, hein ? Une simple égratignure !»
Les portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Le premier, M. d'Imbleval, survint, puis des domestiques munis de bougies.
« Quoi, qu'y a-t-il ? » s'écria le baron. « Monsieur Wilson est blessé ?»«
Rien, une simple égratignure, » répéta Sholmès, cherchant à s'illusionner. Le sang coulait en abondance et la face était livide. Le docteur, 20 minutes après, constatait que la pointe du couteau s'était arrêté à 4 millimètres du cœur.
« 4 millimètres du cœur, ce Wilson a toujours eu de la chance !» conclut Sholmès d'un ton d'envie.
« De la chance, grommela le docteur.
« Dame, avec sa robuste constitution, il en sera quitte.
Pour 6 semaines de lit et 2 mois de convalescence. Pas davantage ?»«
Non, à moins de complications. »
« Pourquoi diable voulez-vous qu'il y ait des complications ?» Pleinement rassuré, Sholmès rejoignit le baron au boudoir. Cette fois, le mystérieux visiteur n'y avait pas mis la même discrétion. Sans vergogne, il avait fait main basse sur la tabatière enrichie de diamants, sur le collier d'opale et, d'une façon générale, sur tout ce qui pouvait prendre place dans les poches d'un honnête cambrioleur. La fenêtre était encore ouverte, un des carreaux avait été proprement découpé et au petit jour, une enquête sommaire en établissant que l'échelle provenait de l'hôtel en construction indiqua la voie que l'on avait suivie. Bref, dit M. d'Imbleval avec une certaine ironie, c'est la répétition exacte du vol de la lampe juive.
Oui, si l'on accepte la première version adoptée par la justice.
Vous ne l'adoptez donc pas encore? Ce second vol n'ébranle pas votre opinion sur le premier?
Il la confirme, monsieur.
Est-ce croyable? Vous avez la preuve irréfutable que l'agression de cette nuit a été commise par quelqu'un du dehors et vous persistez à soutenir que la lampe juive a été soustraite par quelqu'un de notre entourage?
Par quelqu'un qui habite cet hôtel.
Alors, comment expliquez-vous?
Je n'explique rien, monsieur. Je constate deux faits qui n'ont l'un avec l'autre que des rapports d'apparence. Je les juge isolément et je cherche le lien qui les unit.
Sa conviction semblait si profonde, ses façons d'agir fondées sur des motifs si puissants que le baron s'inclina.
Soit, nous allons prévenir le commissaire.
À aucun prix, s'écria vivement l'anglais, à aucun prix, j'entends ne m'adresser à ces gens que quand j'ai besoin d'eux.
Cependant, les coups de feu, il n'importe.
Votre ami.
Mon ami n'est que blessé, obtenez que le docteur se taise. Moi, je réponds de tout du côté de la justice.
Deux jours s'écoulèrent, vides d'incidents, mais où Sholmès poursuivit sa besogne avec un soin minutieux et un amour-propre qu'exaspérait le souvenir de cette audacieuse agression exécutée sous ses yeux, en dépit de sa présence et sans qu'il en pût empêcher le succès. Infatigable, il fouilla l'hôtel et le jardin, s'entretint avec les domestiques et fit de longues stations à la cuisine et à l'écurie. Et bien qu'il ne recueillît aucun indice qui l'éclaira, il ne perdait pas courage.
Je trouverai, pensait-il, et c'est ici que je trouverai.
Il ne s'agit pas, comme dans l'affaire de la dame blonde, de marcher à l'aventure et d'atteindre, par des chemins que j'ignorais, un but que je ne connaissais pas. Cette fois, je suis sur le terrain même de la bataille. L'ennemi n'est plus seulement l'insaisissable et invisible Lupin, c'est le complice en chair et en os qui vit et qui se meut dans les bornes de cet hôtel. Le moindre petit détail et je suis fixé. Ce détail, dont il devait tirer de telles conséquences, et avec une habileté si prodigieuse que l'on peut considérer l'affaire de la lampe juive comme une de celles où éclate le plus victorieusement son génie de policier, ce détail, ce fut le hasard qui le lui fournit. L'après-midi du troisième jour, comme il entrait dans une pièce située au-dessus du boudoir et qui servait de salle d'études aux enfants, il trouva Henriette, la plus petite des sœurs. Elle cherchait ses ciseaux.
« Tu sais, dit-elle à Sholmès, j'en fais aussi des papiers comme celui que t'as reçu l'autre soir. »
L'autre soir.
Oui, à la fin du dîner, tu as reçu un papier avec des bandes dessus. Tu sais, un télégramme. Eh bien, j'en fais aussi, moi.
Elle sortit. Pour tout autre, ces paroles n'eussent rien signifié que l'insignifiante réflexion d'un enfant. Et Sholmès lui-même les écouta d'une oreille distraite et continua son inspection. Mais tout à coup, il se mit à courir après l'enfant, dont la dernière phrase le frappait subitement. Il la rattrapa au haut de l'escalier et lui dit « Alors, toi aussi, tu colles des bandes sur papier ?» Henriette, très fière, déclara
« Mais oui, je découpe des mots et je les colle. »
« Et qui t'a montré ce petit jeu ?»«
Mademoiselle, ma gouvernante, je lui en ai vu faire autant. Elle prend des mots sur les journaux, elle les colle. »«
Et qu'est-ce qu'elle en fait ?»«
Des télégrammes, des lettres qu'elle envoie. »
Herlock Sholmès rentra dans la salle d'études, singulièrement intriguée par cette confidence et s'efforçant d'en extraire les déductions qu'elle comportait. Des journaux, il y en avait un paquet sur la cheminée. Il les déplia et vit en effet des groupes de mots ou des lignes qui manquaient, régulièrement et proprement enlevées. Mais il lui suffit de lire les mots qui précédaient ou qui suivaient pour constater que les mots qui manquaient avaient été découpés au hasard des ciseaux, par Henriette évidemment. Il se pouvait que dans la liasse des journaux, il y en eût un que mademoiselle eût découpé elle-même, mais comment s'en assurer? Machinalement, Herlock feuilleta les livres de classe empilés sur la table, puis d'autres qui reposaient sur les rayons d'un placard. Et soudain, il eut un cri de joie. Dans un coin de ce placard, sous de vieux cahiers amoncelés, il avait trouvé un album pour enfants, un alphabet orné d'images, et à l'une des pages de cet album, un vide lui était apparu. Il vérifia. C'était la nomenclature des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, etc. Le mot « samedi » manquait. Or, le vol de la lampe juive avait eu lieu dans la nuit de samedi. Herlock éprouva ce petit serrement de cœur qui lui annonçait toujours, de la manière la plus nette, qu'il avait touché au nœud même d'une intrigue. Cette étreinte de la vérité, cette émotion de la certitude ne le trompait jamais. Fiévreux et confiant, il s'empressa de feuilleter l'album. Un peu plus loin, une autre surprise l'attendait. C'était une page composée de lettres majuscules suivie d'une ligne de chiffres. 9 de ces lettres et 3 de ces chiffres avaient été enlevés soigneusement. Sholmès les inscrivit sur son carnet dans l'ordre qu'ils eussent occupé et obtint le résultat suivant. « C-D-E-H-N-O-P-R-Z 2-3-7 » Fichtre, murmura-t-il à première vue, ça ne signifie pas grand-chose. Pouvait-on, en mêlant ces lettres et en les employant toutes, former un ou deux ou trois mots complets? Sholmès le tenta vainement. Une seule solution s'imposait à lui qui revenait sans cesse sous son crayon et qui, à la longue, lui parut la véritable. Aussi bien parce qu'elle correspondait à la logique des faits que parce qu'elle s'accordait avec les circonstances générales. Étant donné que la page de l'album ne comportait qu'une seule fois chacune des lettres de l'alphabet, il était probable... Il était certain qu'on se trouvait en présence de mots incomplets et que ces mots avaient été complétés par des lettres empruntées à d'autres pages. Dans ces conditions, et sauf erreur, l'énigme se posait ainsi. Répond.z ch 237. Le premier mot était clair, répondait, un E manquant parce que la lettre E déjà employée n'était plus disponible. Quant au second mot inachevé, il formait indubitablement avec le nombre 237 l'adresse que donnait l'expéditeur au destinataire de la lettre. On proposait d'abord de fixer le jour au samedi et l'on demandait une réponse à l'adresse ch.237. Ou bien ch.237 était une formule de poste restante, ou bien les lettres ch faisaient partie d'un mot incomplet. Sholmès feuilleta l'album. Aucune autre découpure n'avait été effectuée dans les pages suivantes. Il fallait donc, jusqu'à nouvel ordre, s'en tenir à l'explication trouvée.
C'est amusant, n'est-ce pas?
Henriette était revenue. Il répondit. Si c'est amusant, seulement tu n'as pas d'autres papiers ou bien des mots déjà découpés et que je pourrais coller?
Des papiers? Non,
et puis mademoiselle serait pas contente.
Mademoiselle?
Oui, elle m'a déjà grondée.
Pourquoi?
Parce que je vous ai dit des choses. Et elle dit, on ne doit jamais dire des choses sur ceux qu'on aime bien.
Oh, tu as absolument raison.
Henriette sembla ravie de l'approbation. Tellement ravie qu'elle tira d'un menu sac de toile épinglé à sa robe, quelques loques, 3 boutons, 2 morceaux de sucre et finalement un carré de papier qu'elle tendit à Sholmès.
« Tiens, je te le donne tout de même. C'était un numéro de fiacre. Le 48279.
D'où vient-il ce numéro ?»«
Il est tombé de son porte-monnaie. »«
Quand ?»«
Dimanche, à la messe, elle prenait des sous pour la quête. »«
Parfait. » Et maintenant, je vais te donner le moyen de n'être pas grondée. Ne dis pas à mademoiselle que tu m'as vue. »
Sholmès s'en alla trouver M. d'Imbleval et nettement l'interrogea sur mademoiselle. Le baron eut un haut-le-corps.
« Alice de main, est-ce que vous penseriez? C'est impossible. »
« Depuis combien de temps est-elle à votre service ?»
Un an seulement, mais je ne connais pas de personne plus tranquille et en qui j'ai plus de confiance.
Comment se fait-il que je ne l'ai pas encore aperçue?
Elle s'est absentée 2 jours.
Et actuellement?
Dès son retour, elle a voulu s'installer au chevet de votre amie. Elle a toutes les qualités d'une garde malade, douce, prévenante. Monsieur Wilson en paraît enchanté.
« Ah !» fit Sholmès qui avait complètement négligé de prendre des nouvelles du vieux camarade. Il réfléchit et s'informa.
« Et le dimanche matin est-elle sortie ?»«
Le lendemain du vol ?»«
Oui. »
Le baron appela sa femme et lui posa la question. Elle répondit « Mademoiselle est partie comme à l'ordinaire pour aller à la messe de 11 heures avec les enfants. »
Mais auparavant?
Auparavant, non, ou plutôt... Oh, mais j'étais si bouleversée par ce vol. Cependant, je me souviens qu'elle m'avait demandé, la veille, l'autorisation de sortir le dimanche matin pour voir une cousine de passage à Paris, je crois. Mais je ne suppose pas que vous la soupçonniez.
Certes, non. Cependant, je voudrais la voir.
Il monta jusqu'à la chambre de Wilson. Une femme, vêtue comme les infirmières d'une longue robe de toile grise, était courbée sur le malade et lui donnait à boire. Quand elle se tourna, Sholmès reconnut la jeune fille qu'il avait abordée devant la gare du Nord. Il n'y eut pas entre eux la moindre explication. Alice Demain sourit doucement, de ses yeux charmants et graves, sans aucun embarras. L'anglais voulut parler, ébaucha quelques syllabes et se tut. Alors elle reprit sa besogne, évolua paisiblement sous le regard étonné de Sholmès, remua des flacons, déroula et roula des bandes de toile et de nouveau lui adressa son clair sourire. Il pivota sur ses talons, redescendit, avisa dans la cour l'automobile de M. d'Imbleval, s'y installa et se fit mener à Levallois. Au dépôt de voiture dont l'adresse était marquée sur le bulletin de fiacre livré par l'enfant. Le cocher Dupré, qui conduisait le 8279 dans la matinée du dimanche, n'étant pas là, il renvoya l'automobile et attendit jusqu'à l'heure du relais. Le cocher Dupré raconta qu'il avait en effet chargé une dame aux environs du parc Monceau, une jeune dame en noir qui avait une grosse voilette et qui paraissait très agitée.
Elle portait un paquet?
Oui, un paquet assez long.
Et vous l'avez menée?
avenue des Ternes, au coin de la place Saint-Ferdinand. Elle y est restée une dizaine de minutes, puis on s'est retourné au parc Monceau.
Vous reconnaîtriez la maison de l'avenue des Ternes ?
Parbleu, faut-il vous y conduire ?
Tout à l'heure. Conduisez-moi d'abord au 36 quai des Orfèvres.
À la préfecture de police, il eut la chance de rencontrer aussitôt l'inspecteur principal Ganimard.
« Monsieur Ganimard, vous êtes libre ?»«
S'il s'agit de Lupin, non. »«
Il s'agit de Lupin. »«
Alors, je ne bouge pas. »«
Comment ? Vous renoncez ?»«
Je renonce à l'impossible. » Je suis là d'une lutte inégale où nous sommes sûrs d'avoir le dessous. C'est lâche, c'est absurde, c'est tout ce que vous voudrez, je m'en moque. Lupin est plus fort que nous, par conséquent, il n'y a qu'à s'incliner.
Je ne m'incline pas.
Il vous inclinera, vous comme les autres.
Eh bien, c'est un spectacle qui ne peut manquer de vous faire plaisir.
« Ah, ça, c'est vrai !» dit Ganimard ingénument. « Et puisque vous n'avez pas votre compte de coups de bâton, allons-y !»
Tous deux montèrent dans le fiacre. Sur leur ordre, le cocher les arrêta un peu avant la maison et de l'autre côté de l'avenue, devant un petit café à la terrasse duquel ils s'assirent entre des lauriers et des fusains. Le jour commençait à baisser.
« Garçon, fit Sholmès, de quoi écrire ?»
Il écrivit et rappelant le garçon.
« Portez cette lettre au concierge de la maison qui est en face. C'est évidemment l'homme en casquette qui fume sous la porte cochère. »
Le concierge accourut et Ganimard ayant décliné son titre d'inspecteur principal, Sholmès demanda si le matin du dimanche il était venu une jeune dame en noir.
« En noir, oui, vers 9 heures, oui, celle qui monte au second. »«
Vous la voyez souvent ?»«
Bon, non, mais depuis quelque temps, davantage, la dernière quinzaine, presque tous les jours. »«
Et depuis dimanche ?»«
Bon, une fois seulement, sans compter aujourd'hui. »
« Comment ? Elle est venue ?»«
Elle est là. »«
Elle est là ?»«
Voilà bien 10 minutes. Sa voiture attend sur la place Saint-Ferdinand, comme d'habitude. »« Elle, je l'ai croisée sous la porte. »«
Et quel est ce locataire du second ?»«
Il y en a deux. Une modiste, Mademoiselle Langer, et un monsieur qui a loué 2 chambres meublées depuis un mois. » Sous le nom de Bresson.
Pourquoi dites-vous sous le nom ?
Bon, c'est une idée à moi que c'est un nom d'emprunt. Ma femme fait son ménage. Eh bien, il n'y a pas 2 chemises avec les mêmes initiales.
Comment vit-il ?
Oh, dehors, presque. Des 3 jours, il rentre pas chez lui.
Est-il rentré dans la nuit de samedi à dimanche ?
Dans la nuit de samedi à dimanche, écoutez voir, attendez que je réfléchisse. Oui, samedi soir il est rentré, il n'a pas bougé.
Et quelle sorte d'homme est-ce ?
Ma foi, ça je ne saurais dire, il est si changeant. Les grands, les petits, les gros, les fluets, les bruns et blonds. Je le reconnais toujours pas.
Ganimard et Sholmès se regardèrent.
C'est lui, murmura l'inspecteur, c'est bien lui.
Il y eut vraiment chez le vieux policier un instant de trouble qui se traduisit par un bâillement et par une crispation de ses 2 poings. Sholmès aussi, bien que plus maître de lui, sentit une étreinte au cœur.
« Attention, dit le concierge,
Voici la jeune fille. »
Mademoiselle, en effet, apparaissait au seuil de la porte et traversait la place.
« Et voici Monsieur Bresson. »«
Monsieur Bresson, lequel ?»«
Celui qui porte un paquet sous le bras. »
Mais il ne s'occupe pas de la jeune fille, elle regagne seule sa voiture.
Oh, ça, je les ai jamais vus ensemble.
Les deux policiers s'étaient levés précipitamment. À la lueur des réverbères, ils reconnurent la silhouette de Lupin qui s'éloignait dans une direction opposée à la place.
Qui préférez-vous suivre ? Demanda Ganimard.
Lui, parbleu, c'est le gros gibier.
« Alors moi, je file la demoiselle, » proposa Ganimard.
« Non, non, » dit vivement l'anglais, qui ne voulait rien dévoiler de l'affaire à Ganimard. « La demoiselle, je sais où la trouver. Ne me quittez pas. »
Et à distance, en utilisant l'abri momentané des passants et des kiosques, ils se mirent à la poursuite de Lupin. Poursuite facile d'ailleurs, car il ne se retournait pas et marchait rapidement, avec une légère claudication de la jambe droite, si légère qu'il fallait de l'œil exercé d'un observateur pour l'apercevoir. Ganimard dit
« Il fait semblant de boiter. » Et il reprit « Ah, si l'on pouvait ramasser deux ou trois agents et sauter sur notre individu, nous risquons de le perdre. »
Mais aucun agent ne se montra avant la porte des ternes et les fortifications franchies. Il ne devait plus escompter le moindre secours.
Séparons-nous, dit Sholmès, l'endroit est désert.
C'était le boulevard Victor Hugo. Chacun d'eux prit un trottoir et s'avança selon la ligne des arbres. Ils allèrent ainsi pendant 20 minutes jusqu'au moment où Lupin tourna sur la gauche et longea la Seine. Là, ils aperçurent Lupin qui descendait au bord du fleuve. Il y resta quelques secondes sans qu'il leur fût possible de distinguer ses gestes. Puis il remonta la berge et revint sur ses pas. Ils se collèrent contre les piliers d'une grille, Lupin passa devant eux, il n'avait plus de paquet. Et comme il s'éloignait, un autre individu se détacha d'une encoignure de maison et se glissa entre les arbres.
Sholmès dit à voix basse, « Il a l'air de le suivre aussi, celui-là. »«
Oui, il m'a semblé déjà le voir en allant. »
La chasse recommença, mais compliquée par la présence de cet individu. Lupin reprit le même chemin, traversa de nouveau la porte des ternes et rentra dans la maison de la place Saint-Ferdinand. Le concierge fermait lorsque Ganimard se présenta.
« Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?»«
Oui, j'éteignais le gaz de l'escalier, il a poussé le verrou de sa porte. »«
Il n'y a personne avec lui ?»«
Personne, aucun domestique, il ne mange jamais ici. »«
Il n'existe pas d'escalier de service ?»«
Non. »
Ganimard dit à Sholmès, « Le plus simple est que je m'installe à la porte même de Lupin. » Tandis que vous allez chercher le commissaire de police de la rue Demours, je vais vous donner un mot.
Sholmès objecta. Et s'il s'échappe pendant ce temps?
Puisque je reste.
Un contre un, la lutte est inégale avec lui.
Je ne puis pourtant pas forcer son domicile, je n'en ai pas le droit, la nuit surtout.
Sholmès haussa les épaules.
« Quand vous aurez arrêté Lupin, on ne vous chicanera pas sur les conditions de l'arrestation. D'ailleurs quoi ? Il s'agit tout au plus de sonner. Nous verrons alors ce qui se passera. »
Ils montèrent. Une porte à deux battants s'offrait à gauche du palier. Ganimard sonna. Aucun bruit. Il sonna de nouveau. Personne.
« Entrons !» murmura Sholmès.
« Oui, allons-y. »
Pourtant, ils demeurèrent immobiles, l'air irrésolu. Comme des gens qui hésitent au moment d'accomplir un acte décisif, ils redoutaient d'agir et il leur semblait soudain impossible qu'Arsène Lupin fût là, si près d'eux, derrière cette cloison fragile qu'un coup de poing pouvait abattre. L'un et l'autre, ils le connaissaient trop, le diabolique personnage, pour admettre qu'il se laissa pincer aussi stupidement. Non, non, mille fois non, il n'était plus là. Par les maisons contiguës, par les toits, par telle issue, convenablement préparée, il avait dû s'évader, et une fois de plus, c'est l'ombre seule de Lupin qu'on allait étreindre. Ils frissonnèrent. Un bruit imperceptible, qui venait de l'autre côté de la porte, avait comme effleuré le silence. Et ils eurent l'impression, la certitude, que tout de même il était là, séparé d'eux par la mince cloison de bois, et qu'il les écoutait, qu'il les entendait. Que faire? La situation était tragique. Malgré leur sang-froid de vieux routiers de police, une telle émotion les bouleversait qu'ils s'imaginaient percevoir les battements de leur cœur. Du coin de l'œil, Ganimard consulta Sholmès. Puis, violemment, de son poing, il ébranla le battant de la porte. Un bruit de pas maintenant. Un bruit qui ne cherchait plus à se dissimuler. Ganimard secoua la porte. D'un élan irrésistible, Sholmès, l'épaule en avant, l'abattit, et tous deux se ruèrent à l'assaut. Ils s'arrêtèrent net. Un coup de feu avait retenti dans la pièce voisine, un autre encore, et le bruit d'un corps qui tombait. Quand ils entrèrent, ils virent l'homme étendu, la face contre le marbre de la cheminée. Il eut une convulsion, son revolver glissa de sa main. Ganimard se pencha et tourna la tête du mort. Du sang la couvrait, qui giclait de deux larges blessures, l'une à la joue et l'autre à la tempe. « Il est méconnaissable, » murmura-t-il. « Parbleu, » fit Sholmès, « ce n'est pas lui. »« Comment le savez-vous? Vous ne l'avez même pas examiné. » L'anglais ricana. « Pensez-vous donc qu'Arsène Lupin est homme à se tuer ?» Pourtant, nous avons bien cru le reconnaître dehors. Nous avons cru parce que nous voulions croire. Cet homme nous obsède. Alors, c'est un de ses complices. Les complices d'Arsène Lupin ne se tuent pas. Mais alors, qui est-ce? Ils fouillèrent le cadavre. Dans une poche, Herlock Sholmès trouva un portefeuille, vide. Dans une autre, Ganimard trouva quelques louis. Au linge, point de marque, aux vêtements non plus. Dans les malles, une grosse malle et deux valises, rien que des effets. Sur la cheminée, un paquet de journaux. Ganimard les déplia, tous parlaient du vol de la lampe juive. Une heure après, lorsque Ganimard et Sholmès se retirèrent, ils n'en savaient pas plus sur le singulier personnage que leur intervention avait acculé au suicide. Qui était-ce? Pourquoi s'était-il tué? Par quel lien se rattachait-il à l'affaire de la lampe juive? Qui l'avait filé au cours de sa promenade? Autant de questions aussi complexes les unes que les autres, autant de mystères. Herlock Sholmès se coucha de fort mauvaise humeur. À son réveil, il reçut un pneumatique ainsi conçu. Arsène Lupin a l'honneur de vous faire part de son tragique décès en la personne du sieur Bresson et vous prie d'assister à ses convois, services et enterrements qui auront lieu aux frais de l'État jeudi le 25 juin.